c'est ta bouche qui m'apporte ma joie de vivre. Et ma chance, c'est de vivre rien que pour toi. Que m'importe si tu m'aimes moins que moi? Moi, je t'aime comme on aime qu'une fois. Et je reste prisonnière, prisonnière de tes bras. Comme prima, tu me donnes tant de joie. La notte, come allora magica scende.
Bien le bonsoir, monsieur Kogan. Bien le bonsoir, monsieur Edmond. Nous sommes dans Je m'ennuie bien. Nous sommes ensemble pour une heure et nous allons parler un peu de tout.
Oui, bonsoir madame Henriette, bonsoir monsieur Kogan.
Nous allons parler un peu de tout, nous allons essayer d'en rire surtout. Ça va pas être facile.
Non, je dois avouer que j'ai beaucoup de mal le matin là quand j'ai ce gamin de 6 ans là qui me réveille et qui parle dans l'autoradio là. C'est insupportable. En plus de penser qu'il est à la tête de la première puissance mondiale quoi, ça fout vraiment les miquettes. Hein.
You did a good job.
Ouais, c'est ça, ouais. Puis alors il parle un anglais, même moi je le comprends. Et puis c'est avec
c'est
trois
bon
mots
signe.
De vocabulaire et c'est mais c'est affligeant et sur et en plus on a l'impression que il y a aucun dossier où il ne va pas dire un truc. Franchement c'est affligeant quoi. C'est... je sais pas, c'est et qu'un pays ait pu se je sais pas, c'est incompréhensible, c'est au-delà de ma compréhension.
Va falloir vous y faire pourtant.
Bah, moi non, hein, c'est surtout les Américains. Nous déjà, on avait eu la pire honte avec un certain ancien président qui maintenant est en tôle et refuse de manger apparemment, à part les yaourts qu'il ouvre lui-même, hein, parce qu'il a peur qu'on crache dans sa bouffe. Non mais c'est dire le niveau du mec quand même. Hein,
il a peut-être raison là-dessus.
Ouais, mais enfin bon, un bon molard, ça a jamais fait de mal. Hein, c'est bon.
Oh, mais qu'est-ce que c'est ? Ça démarre très mal cette émission. Reprenez-vous, monsieur Edmond.
Reprenez-vous.
Bon, alors, en tout cas, de quoi allons-nous parler ? J'en sais fichtre rien, moi. De quoi vous voulez que je vous parle, madame Henriette ?
Ah ben,
vous
avez
pas
préparé,
une chronique ou pas ? Ben non, j'en avais marre, je fais plus de quoi. Non, en fait, je vais vous dire un truc. J'avais arrêté de vous faire les titres et mes collègues de cette émission m'abreuvent en permanence de titres. Donc, je suis obligé de vous refaire quelques titres.
Oui, mais c'est vrai que la source est inépuisable.
Et je ne dirai rien de Madame Freddy qui ne veut pas revenir dans cette émission, mais qui continue de nous balancer des titres. Hein ? Donc, Madame Freddy, si vous nous écoutez, il va falloir un moment choisir. Hein. Soit c'est je m'ennuie bien dedans, soit c'est je m'ennuie bien dehors. Mais on ne peut pas faire les deux. Allez, on commence avec ce titre fabuleux qui va nous donner la frite. La Belgique se dote de F-35 tout neuf. Mais son espace aérien ne permet pas l'entraînement des pilotes.
C'est trop petit ?
Oui, c'est trop petit.
C'est trop mignon.
Non, mais c'est magique. Moi, je sais pas, les mecs qui commandent... Ah, mais au fait, comment on va faire pour entraîner les pilotes ?
Ah, ben pour avoir un peu plus d'espace, il faut qu'ils survolent le Luxembourg.
Ah, mince. Ah, j'ai décollé, je suis déjà sorti de l'espace aérien. Mince. C'est n'importe quoi. Allez, un titre envoyé par Madame Henriette, très fière d'elle. Un Italien dilé dans son salon de coiffure. Il est démasqué parce qu'il accueillait trop de chauves. Bon, là, je ne sais que dire.
Alors,
c'est-à-dire
malgré...
qu'il y a des flics qui font des planques devant les salons de coiffure pour voir que les chauves qui rentrent et ils les comptent.
Donc, ça tendrait à prouver que malgré tous les effets prêtés aux substances psychotropes, ça ne fait pas repousser les cheveux, manifestement.
Vous ne savez pas ce qu'il dilé. Pas les bons trucs, en tout cas. Alors que pour les cheveux, c'est bien connu, il faut...
des cheveux.
Ah, et si vous n'en avez pas, c'est mort.
En fait, c'est ça. Pour avoir des cheveux, il faut avoir le patrimoine génétique qui va bien, j'ai l'impression.
Ouais, moi, j'ai l'impression que même là, l'intelligence artificielle ne peut rien faire. Il faudrait que je pose la question à ChatGPT.
Mais
que
façon,
faire contre la calvitie ?
La prochaine fois que vous vous cognerez l'orteil contre le pied du lit, vous verrez que l'intelligence artificielle est tout à fait inefficace dans plein de domaines, et des domaines importants pourtant.
Ah, quelle tristesse. J'ai bien aimé l'autre jour d'ailleurs aussi parler là, du télétravail. Et je ne sais plus quel ministre ou un mec un peu haut placé qui dit « Oui, machin, et on va en profiter. Tant pis, on mettra tout le monde au télétravail. Ben, moi, j'attends. Hein. J'ai toute une liste de métiers. J'aimerais bien savoir comment ils vont télétravailler. Hein. Et respect pour les éboueurs, hein, pour commencer. En télétravail, ça doit être chaud quand même. Allez, Nantes. Et donc, c'est Madame Freddy qui nous envoie ça, parce qu'elle est toujours à fond, elle, sur les trucs qui commencent par alcooliser. Hein. Donc là, vous allez voir, évidemment, ce sont des titres, vous le savez, chers amis auditeurs, qui finissent mal. Et en général, on met le hashtag « Ne faites pas ça chez vous hein. ». Alcoolisé dans un bus, une femme montre ses seins et deux hommes urinent dans le véhicule. Belle ambiance à Nantes.
Ah, c'est à Nantes ? Ah, oui. Bah ouais, ben là...
Oui, que d'accord. La routine.
Ah, c'est ça, voilà. Quand on vous dit qu'il faut les réunifier avec les autres Bretons, c'est pas pour rien. Voilà.
C'est des touristes qui ont dû rapporter l'info. Les locaux n'ont pas bougé. Hein.
Ah non, rien d'étonnant.
Allez, un titre que j'ai gardé pour Monsieur Kogan, parce que je suis sûr que ça lui fera plaisir.
Oh là 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 là.
Des dinosaures à sabots découverts dans le Wyoming. Vous l'avez vu
des
passer, celui-là ?
Des dinosaures à sabots ?
Des dinosaures à sabots.
C'est pas les magas, déjà ? Non,
non, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Donc, c'était un site qui est fouillé depuis le début du XXe siècle. Et cette fois, les chercheurs américains ont mis à jour de nouveaux fossiles d'adrosaures. Et donc, les sabots en étaient conservés. On savait que c'était des dinosaures qui avaient des sabots. Mais jusque-là, eh ben, on n'avait pas pu... Voilà. Et là, on a enfin trouvé des fossiles d'adrosaures où les sabots sont encore au pied des bêtes. Ah, il s'en passe de belle dans le Wyoming.
Cataclope.
Allez, tout à fait autre chose. Donc, je suis quand même allé voir un peu ce qui se passait dans notre Assemblée nationale.
Oh là là.
Et alors, ce que j'aime bien quand même, et je pense que je suis désolé de le dire, mais pas assez de publicité ou je ne sais pas comment dire, de compte-rendu est fait des débats qui ont lieu autour du budget de la nation. C'est quand même des moments importants et on apprend plein de trucs. Exemple.
Vous trouvez qu'on n'en entend pas assez,
vous ? On n'en entend pas assez dans le détail parce qu'en fait, on nous parle, oui, peut-être qu'on ne va pas voter, on a foiré la taxe Zuman et tout ça, Zuckman et machin.
Oui, on parle beaucoup des états d'âme des uns et des autres.
Ouais, on ne rentre pas dans le détail.
On est dans le drama.
Voilà, alors qu'on apprend des choses très, très intéressantes. Par exemple, les amendements, il y en a qui sont quand même magiques, je trouve. Il y en a un qui a été adopté par rapport à l'article 12.
Ah, ouais.
Et c'était par rapport aux véhicules, au bonus confilé, à l'argent confilé aux gens et notamment aux entreprises pour qu'ils passent leurs véhicules professionnels à l'électrique pour évidemment moins polluer. Et donc, il y a eu un amendement parce que, eh bien, cette possibilité offerte aux entreprises était largement détournée. Comment ? C'est tout simple. Les entreprises, en fait, achetaient des véhicules dont ils n'avaient pas réellement besoin pour eux-mêmes, mais donc ils profitaient de la prime, ils passaient à l'électrique et ils louaient ces véhicules achetés donc avec de l'argent de nos impôts à des entreprises étrangères. Donc, c'était les impôts des Français qui finançaient la mise, enfin, les véhicules qui roulaient à l'électrique dans d'autres pays. C'est absolument merveilleux. Donc, évidemment, ils ont vu ça, ils ont fait passer un amendement pour que soit mis fin à ce petit trafic. Ce qui est quand même génial, c'est qu'il y a des gens dans des entreprises qui aient pensé à ça. Moi, je trouve ça tout à fait fabuleux.
Et on dira qu'il n'y a plus de créativité dans ce pays.
Voilà. Dès qu'on peut tordre une loi ou un machin, eh bien, on le fait et sans aucun remords. Autre amendement tout à fait intéressant, c'est la loi Garot de 2016 qui est donc censée lutter contre le gaspillage alimentaire et qui imposait aux grandes et aux moyennes surfaces de plus de 400 mètres carrés quand même. Et il fallait arrêter qu'elle jette donc de la nourriture encore comestible à la poubelle. Ou qu'elle y balance de la javel dessus et tout ça, enfin tout un tas de méthodes pour être sûr que personne vienne récupérer cette nourriture. Après tout, ils n'ont pas pu la vendre, donc pourquoi quelqu'un la mangerait ? On apprend donc au détour des débats à l'Assemblée nationale sur le futur budget de notre nation, s'il est voté un jour, que les grandes surfaces, eh bien donc elles étaient fortement invitées par la loi Garot à donner à des associations, donc les invendus. Sauf que quand elle faisait un don à des associations de leur invendu, c'était plafonné, donc c'était déductible de leurs impôts, mais c'était plafonné à 20 000 euros. Voilà. Ou 0,5% de 0,5 pour 1000 de leur chiffre d'affaires.
Et alors, qu'est-ce qui se passait si elles dépassaient ? Elles payaient des impôts sur leurs dons ?
Sur le, ben non, après, oui, après, elles payaient les impôts normalement. Elles, ça leur, en fait, ça leur rapportait plus rien. C'était vraiment du don gratuit pour eux. Tandis que
oui,
la première partie, vous les donnez, mais en même temps...
Ça permettait de défiscaliser.
Exactement, ça défiscalisait. Sauf que, en fait, si... Alors, attendez, il faut que je retrouve précisément, parce que c'est là où c'est rigolo. Ils sont aperçus, les élus, qu'en fait, 37% des déchets alimentaires, c'était encore du gaspillage, et que plus de 80% des destructions n'étaient pas justifiées. Mais en fait, à l'époque... Enfin, toujours en cours, puisque l'amendement est passé, mais comme le budget n'est pas voté, c'est que si les entreprises détruisaient la nourriture qu'elles auraient pu donner à des associations, mais en disant « Ah oui, là, on a été obligés », en gros, elles n'avaient pas beaucoup de justifications à donner, elles avaient quand même le droit de défiscaliser. Sauf que là, il n'y avait pas de plafond. Vous voyez ? Donc, si je donne à des assos, ben, à un moment, je suis plafonné, et puis... Tandis que si je détruis, si je dis que j'ai détruit parce que j'avais raté la date, parce que si, parce que ça, eh bien, je défiscalise quand même. Donc, je gagne de l'argent public, hein, ou en tout cas, je n'en donne pas. Et là, je n'ai pas de plafond. Donc, évidemment, les grosses chaînes, hein, les amis du peuple, on ne dira pas de nom, eh bien, préférer détruire que de donner à des associations.
Oui, donc, pour avoir dirigé une de ces structures à Limoges, je pourrais vous en parler en détail.
Une structure parmi les associations, vous voulez dire. Hein.
Ouais.
Ne semez pas le doute parmi nos auditeurs.
Ouais.
Donc, eh bien, les élus se sont aperçus qu'il serait peut-être temps de modifier la loi afin que les grandes surfaces arrêtent de la contourner. Voilà. Donc l'amendement, évidemment... Eh bien, elle renchérit le fait que c'est mieux de donner aux associations. Donc, voilà, ce sera plus simple. Le plafond est revisité, etc. Machin, bidule. Et surtout, que s'il y a destruction, il faut que ce soit justifié. Puisqu'à l'époque, ce n'était pas justifié. Destruction causée par la survenance d'un événement dû à un cas de force majeure. Destruction parce que les marchandises, lors du transport, le camion s'est foutu en l'air. Voilà, donc là, oui, vous pouvez défiscaliser parce que, effectivement, vous n'avez jamais eu votre marchandise.
Et alors, pourquoi tout simplement on n'arrête pas le fait de faire baisser ses impôts quand il y a destruction ?
Ah bon, parce que là, je pense qu'il y a eu un intense lobbying des grandes surfaces et que, voilà, hein, je pense que c'est pour ça qu'on en était là. On ne donnera pas de nom, mais bon, on les connaît, hein, ceux qui sont toujours à nous faire des grands discours et qui, dès qu'ils peuvent, font tout pour que ce soit eux qui en mettent plein les popoches. Et donc voilà, donc normalement ça devrait être plus strict si un jour ce nouveau budget est voté et les amendements restent comme ça, parce qu'après il y a le Sénat, on ne sait pas ce que peut faire le Sénat, hein. Ils sont quand même en ce moment un peu en roue libre, donc allez savoir. Voilà pour tout ce qui était en direct de l'Assemblée nationale. Donc voyons, on apprend des choses quand même pendant les débats budgétaires. Madame Henriette.
Et grâce à vous, on rigole.
Mais on essaye. On n'aura pas Madame Ginette, malheureusement. Donc, j'espère que vous avez une chronique, Madame Henriette.
Mais tout à fait. Deux petites choses. Alors, c'est... on ne s'était pas consulté, mais c'est amusant. C'est également un clin d'œil à Madame Freddy, notre ancienne chroniqueuse que l'on espère retrouver un jour.
Vous allez parler de sanglier.
Mais oui. Une très intéressante, en tout cas, vidéo à voir. Elle a été produite en partenariat entre le journal Le Monde et le CNRS. Donc, sur le site du CNRS, vous pourrez trouver une vidéo qui s'appelle « Les sangliers arrivent en ville » et qui vous parle d'une étude qui se passe à Bordeaux. Car à Bordeaux, figurez-vous, que les sangliers s'invitent de plus en plus souvent et de plus en plus loin vers le centre-ville.
Ouais. Le livret est fait par Luc Plamondon et Michel Berger, évidemment.
Quand on arrive en ville.
Exactement.
Et qu'on est bien poilu. Allez, Madame Henriette, pardon. Donc, les sangliers arrivent à Bordeaux.
Voilà, non, c'est tout. C'était pour vous inviter à aller voir cette
vidéo. Ah, mais je crois qu'il y avait des infos. C'est parce qu'ils avaient envie de picoler ou quoi ? Ou de manger des cannelés ? C'est pourquoi ils arrivent en ville ?
Parce qu'ils arrivent de nulle part. Peut-être qu'ils sont débiles, peut-être par désespoir. Bon, Mais non, vous irez voir la vidéo, il y a plein d'acteurs, des différents. Ça ressemble à.
Il y a plein d'acteurs.
Non, pas d'acteurs. Alors, j'aurais aimé, moi, qu'il y ait des danseurs, justement, puisque vous évoquez la comédie musicale. Mais non. Là, il y a plein d'intervenants, hein, comme une vidéo faite par des chercheurs. Hein, voilà. Donc, vous verrez les problèmes que ça pose et les différentes options. Qui sont écoutez, est-ce qu'on met en place
pourquoi ça pose des problèmes, Madame Ariette?
Les sangliers, pourquoi ça pose
des
problèmes?
Oui, parce qu'on interdit aux chasseurs de chasser dans le centre-ville de Bordeaux.
Sinon,
il
n'y
aurait
pas
de problème.
Ah ben là, oui.
Laissez faire les chasseurs dans le centre-ville de Bordeaux, vous allez voir que ça va aller.
Ah ben oui, puis bon, ça va. C'est vrai que c'est une ville un peu trop dense, Bordeaux, ça peut. Bon, bref. Voilà. Non, c'était pas ça mon sujet principal. Je voulais vous parler d'autres bestioles beaucoup plus petites. Je voulais vous parler des civelles. Est-ce que vous savez ce qu'est une civelle, Monsieur Kogan? Oui.
C'est un animal qui remonte les fleuves. Et en l'occurrence, si on parle de Bordeaux, ça pose plein de problèmes sur l'estuaire de la Gironde.
Exactement. Et là-bas, ils appellent ça des aloses, si je ne m'abuse, en patois local.
Ah, mais c'est un poisson, ça.
Exactement. Alors, les civelles, en fait, ce sont tout simplement des bébés anguilles. Ça va du stade de la larve jusqu'au bébé anguille. On appelle ça des civelles. Il y a un très, presque rigolo, même si le sujet ne l'est pas du tout, article du Monde qui est daté du 27 octobre qui indique que donc c'est panique autour du trafic de civelles en Belgique. Eh oui, parce que le trafic de civelles est plus lucratif, figurez-vous, que le trafic de drogue dure. Eh oui.
Mais qu'est-ce que vous racontez, Madame Ariette? Ça n'a aucun sens, je n'y comprends rien.
Et oui, des trafiquants se sont emparés de cette marchandise qui n'en est pas une. Et donc, ils trafiquent de la civelle. Trafiquer de la civelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire capturer ces bébés anguilles et essayer de les transporter vivants jusqu'en Asie, puisque là-bas, ils sont engraissés et revendus, donc, une fois qu'ils sont adultes, pour...
Plus cher que la drogue.
Ben, en tout cas, de trafiquer ça...
Ah oui, parce qu'en volume, peut-être, c'est peut-être moins dangereux aussi.
Je ne sais pas, non, ça ne mord pas effectivement les civelles, mais ceci dit, la drogue non plus ne mord pas.
Mais alors pourquoi d'ici ils n'en ont pas là-bas en Asie?
Eh bien voilà, tout réside dans le parcours extrêmement compliqué de l'anguille pour se reproduire. En fait, l'anguille ne peut pas être reproduite en captivité.
Et non.
Elle ne veut pas.
Elle ne veut pas, ça lui coupe tout, dis donc. C'est très très compliqué la reproduction de l'anguille. Alors, les anguilles, elles se reproduisent dans la mer de Sargasses. D'accord? Elles font leurs petits. Alors, c'est des toutes petites larves, hein, les civelles, c'est des larves, c'est des animaux absolument minuscules, qui vont se laisser porter, donc, dès qu'ils sont nés, par le Gulf Stream. Le voyage va durer un an.
Ah oui, quand même.
Oui, oui, oui.
Il faut être patient, là.
Ah ben oui, d'autant qu'a priori, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Hein. Enfin, les civelles ne peuvent pas faire grand-chose. Elles sont rejetées sur les côtes européennes, donc principalement côtes françaises et côtes espagnoles, mais ça va effectivement jusqu'en Belgique. Et là, elles commencent un très long périple. Non, c'est pas marrant d'être une anguille, hein. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent, qui sont fatigués, mais je peux vous dire que les anguilles, c'est terrible. Donc, elles remontent en fait dans les estuaires, et elles remontent d'abord dans l'eau saumâtre, et ensuite elles remontent dans l'eau douce. Donc elles ont un appareil respiratoire qui leur permet de s'adapter de l'eau salée à l'eau saumâtre, et ensuite à l'eau douce. Oui, non, je sais, c'est complètement fou.
Elles arrivent il y a même beaucoup de poissons qui font ça quand même. Hein.
Elles arrivent même à sortir de l'eau. Du moment que le terrain est un peu humide, elles sortent de l'eau et elles arrivent à ramper, puisqu'en fait, elles peuvent aller jusqu'à des étangs, voilà, vraiment de l'eau douce.
Oui, pour l'avoir vu de mes yeux, quand j'étais enfant, c'était assez effrayant, faut pas se mentir, quand on voit des milliers d'animaux qui ressemblent vaguement à des serpents quand même, couper carrément une route pour aller d'un étang à l'autre.
C'est ça. Donc, vous vous doutez que le taux de perte est absolument ahurissant, hein? Elles n'ont pas choisi la facilité, on ne va pas se mentir. D'autant qu'une fois dans l'étang, elles vont grandir, y passer quelques années, Et lorsqu'elles seront matures, rebelote, elles repartent dans l'autre sens pour aller se reproduire dans la mer des sargasses.
Mais là, elles nagent.
Ah ben non, là c'est pareil. S'il faut aller d'un étang jusqu'à la rivière, eh ben il faut ramper, mon ami.
Oui, non, mais après elles nagent parce que là elles se laissent plus porter par le courant. Elles sont assez grandes. Alors.
Oui, voilà. Après elles retournent dans la mer des sargasses.
Et comment elles savent où c'est les sargasses?
Eh ben, je
elles ont
sais
un
pas.
GPS
très probablement.
C'est bien foutu quand même comme engin.
Très
ça.
Probablement. Et donc, elles retournent là-bas dans la mer des Sargasses, où elles se reproduisent et meurent, et on recommence un cycle. Vous imaginez que ces bestioles, c'est quand même pas très facile à élever. Donc, le seul moyen de les élever dans les pays où elles sont très appréciées, eh bien, c'est de prendre des petits vivants et de les mettre dans des élevages. Alors, les Asiatiques sont très, très, très friands de cet animal. Les Européens du Nord également, hein, notamment aux Pays-Bas ou en Scandinavie. Et donc...
ça se mange comme un poisson?
C'est une anguille.
D'accord.
C'est une anguille. Pendant très longtemps, d'ailleurs, l'anguille n'était pas du tout un poisson apprécié. Hein.
C'était bah non, plutôt nous, un poisson français, du pauvre. En France, on en sort bon, ça se mange
et...
pas trop.
Mais c'est un poisson qui est de plus en plus cher. Donc, on en est maintenant à plusieurs milliers d'euros hein, pour le kilo de ces petits poissons, qui ne sont pas destinés à la consommation immédiate. Mais vous vous doutez que durant le transport...
Il y a de la perte aussi.
Il y a énormément de pertes. Et que donc, voilà. Donc, ces poissons... Enfin, l'anguille est un poisson très apprécié, très coté, qui coûte de plus en plus cher. L'anguille est... en tout cas, l'anguille d'Europe est en danger critique d'extinction, tout simplement. Hein, puisque,
c'est super.
Voilà. Et manifestement, eh ben, les consommateurs, qu'ils soient en Europe ou qu'ils soient en Asie, ont toujours pas décidé d'en tenir compte. Ils n'en prennent pas acte et on continue à avoir des restaurants qui proposent de l'anguille. Il y a même des restaurants qui ne proposent que de l'anguille. Voilà.
Ah, je vais peut-être me mettre à l'anguille et comme ça, je serai peut-être le dernier à manger de l'anguille avec un peu de chance alors.
Bah, si vous voulez. Bon, si vous voulez l'élever vous-même, vous avez vu, c'est un petit peu compliqué.
Ah bah surtout s'il faut essayer de lui expliquer. Ouais, non, ça a l'air très très compliqué. Bon, bah écoutez, merci de nous réjouir, Madame Henriette. C'est toujours un plaisir, vos chroniques animalières.
La vie des anguilles, c'est pas facile. Et le cerveau des humains, ça a pas l'air fini.
Je ne sais que dire. Bon, allez, on va donner la parole à Monsieur Kogan, qui va nous réjouir, lui.
Ouh là là, j'étais pas prêt. Je vous écoutais avec attention.
Ah, je croyais que vous n'étiez pas prêt à nous réjouir.
Allez, vous étiez encore à votre...
Ça, c'est pareil. Alors, mes chers compatriotes, et vous deux en premier... Eh bien, vous le savez toutes et tous, le grand cornu est toujours Premier ministre. Va des rétro Satanas. Hein.
Alors, vous prenez beaucoup de risques parce que vous savez que cette émission, elle est enregistrée et
on ne sait jamais ce qui peut se passer.
Et il y a des rediffusions. Donc, au moment où nous enregistrons, il est toujours Premier ministre.
C'est ça, tout à fait. Vous avez bien raison. Et malheureusement, Rachida Dati est toujours ministre de la Culture. Bon, plus sérieusement, rien ne va plus donc dans ce secteur de la culture dans notre pays, puisque l'extrême droite attaque le cinéma hein, à l'Assemblée nationale, justement, on en parlait. Vous l'avez peut-être vu, des propos hallucinants du bien mal nommé Tanguy. L'argent de cette même extrême droite sert à financer des films de propagande religieuse, hein, comme un film qui s'appelle Sacré-Cœur, hein, donc, dont on a beaucoup malheureusement entendu parler. Et je ne parle pas du fait que, pour eux, protéger le patrimoine se fait aux dépens de la création et du spectacle vivant, vrai pourvoyeur de liens sociaux. Bref, rien de nouveau sous le soleil. Ah, si une vraie défenseuse de la culture, en l'occurrence irlandaise, et de sa langue, a été élue présidente de la République d'Irlande hein, il y a quelques semaines. Et un rappeur, fils d'une réalisatrice indienne formidable, hein, vient d'être élu maire de New York City. Donc voilà, je passe sur ce que j'ai entendu, des propos hallucinants contre lui, de la part de certains pseudo-intellectuels français. Donc, il y a donc encore peut-être un petit peu d'espoir. En tout cas, ça commence ailleurs, comme d'habitude. Alors, côté livre, les prix d'automne tombent en ce moment, comme les feuilles. D'ailleurs, si quelqu'un veut m'aider à les ramasser dans mon jardin. Je suis débordé. Voilà. On ne sait jamais qui m'écoute. Le Goncourt.
J'ai eu peur, M. Kogan. J'ai cru que vous vouliez qu'on vous aide à lire les prix. Non, merci.
Ça aussi, mais vous allez voir, ça va être vite fait. Le concours, donc, attribué à la maison vide de Laurent Morinier, je prononce peut-être mal son nom, aux éditions de Minuit, le Renaudot pour Je voulais vivre d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre, le Fémina pour La nuit au cœur de Natacha Appana, et le Médicis pour Colcos d'Emmanuel Carrère, qui est déçu de ne pas avoir eu le concours, visiblement. Alors, j'ai surtout noté le seul que je vais lire, je pense, en souvenir d'un énorme coup de pied qu'elle m'a mis en KDS lors d'un pogo il y a très longtemps, le prix de Flore pour Toutes les vies de Rebecca Warrior. Oui, Rebecca Warrior, la chanteuse de Sexy Sushi. Voilà. Donc, c'est quand même un véritable événement. Je vais en revenir au cinéma, bien sûr. Un film français pour commencer. Voilà, vous pouvez noter ça sur vos tablettes. Je commence par un film français. Ce film avait marqué Cannes et Nadia Militi avait décroché pour celui-ci le prix d'interprétation féminine. Je parle bien sûr de La petite dernière de Assia Hirsi, la réalisatrice provençale de 38 ans, ancienne protégée d'Abdelatif Kitch, qu'il avait révélé dans La graine et le mulet, réalise là son quatrième long métrage. Un film maîtrisé, bien écrit, aux acteurs touchants, où le cru percute la poésie, faut, de temps en temps, faut quand même le dire. On suit une jeune entre lycée et fac, ses questionnements sur la sexualité, son émancipation, ses difficultés à faire des choix, hein, quand on est issu d'un quartier, d'une famille musulmane. Il fallait un œil juste, bienveillant, bien sûr, pour dresser ce portrait touchant, émouvant, je l'ai dit. Le film a eu la Queer Palme et est adapté du roman de Fatima Daas, paru en 2020. Un film sur le doute, sur la liberté et la tolérance, de quoi mettre les fascistes en PLS. Voilà, islam, homosexualité, banlieue. Voilà, je pense que c'est bon. J'ai adoré et je conseille vivement. Voilà.
Je pense qu'il n'y aura pas que les fascistes en PLS, hein, vu le programme, mais bon.
Ouais, mais non, je pense que c'est vraiment très bien. Et c'est à voir, alors avec des précautions, mais c'est à voir avec nos ados, parce que c'est une vraie, c'est un vrai film initiatique, quoi. Voilà. Donc je trouve que c'est vraiment très pédagogique, même si c'est cru, mais au moins c'est intéressant et c'est juste. Alors, un autre film sur Netflix pour le coup, House of Dynamite. Alors moi je l'attendais, ce film-là. Le titre est expliqué à un moment assez critique du film. C'est le dernier film de Catherine Bigelow. Alors je crois, Monsieur Edmond, que vous l'avez vu. Vous allez nous donner votre sentiment. Avant ça, je voulais quand même dire deux, trois mots. Après un très fort Detroit en 2017, la réalisatrice californienne de 73 ans revient à un truc qu'elle maîtrise visiblement pas mal, le complexe militaro-industriel. Avec un film percutant, c'est le troisième de son triptyque, donc voilà, qui donne Des mineurs, Zero Dark Thirty, House of Dynamite. Bigelow s'est fait connaître par son deuxième film, Near Dark, aux frontières de l'aube en français, chef-d'œuvre du film vampirique, avant d'arriver au film, on va dire, politique, en passant par Point Break et Strange Days. Là, elle clôt donc son cycle avec un film en trois mouvements. Le pitch est simple, hein, un missile est détecté dans le Pacifique, qui a tiré, où va-t-il, comment l'intercepter, qui prend la décision de répliquer, et en ce cas, qui évacuer, etc. Autant de questions à régler en 8 minutes. Elle décortique les arcanes, évidemment, du pouvoir, mais pas que. On voit la cellule de crise, la Maison Blanche, on voit l'état-major interarmé, on voit le président, qui est quand même très seul, et etc. Et ça donne une tension folle, un suspense qui est étouffant, malgré un découpage qui va, on va quand même le dire, c'est la nuance que je peux porter, déconcerter certains, parce que c'est quand même pas facile de revenir en arrière deux fois de suite. Mais voilà, Bigelow prend un temps, voilà, elle prend du temps pour expliquer en montrant tout, voilà, tout, la scène avec le secrétaire à la défense, je ne vais pas en dire plus. Cette scène, pour moi, elle est énorme. Elle est vraiment énorme quand il prend le téléphone pour appeler sa fille et ce qui se passe après. Pour moi, c'est vraiment un des moments critiques du film. Et le choix de l'acteur pour le président en dit long. Voilà, ce que je terminerai là-dessus. Si aujourd'hui, la situation qui est évoquée dans le film arrivait, eh ben avec Trump, dont le doigt serait à quelques centimètres du bouton, à moi la peur. Voilà. Avez-vous quelque chose à contredire là-dessus ou à apporter, monsieur?
À contredire, absolument pas, monsieur Kogan. Une très bonne description de ce film. Ce que je peux dire sur le président, c'est que au début, on ne le voit pas. Non, puisque ouais. Comme vous l'avez dit, c'est fait en trois parties qui racontent exactement la même chose, mais pas selon les mêmes points de vue.
Ouais.
Et par contre, on l'entend. Et moi, j'ai cru que c'était une espèce d'IA qui imitait la voix de Trump. Je pense qu'il a pris un peu le même phrasé au début. Et on se dit, purée, mais il parle aussi mal que Trump, le mec. Alors après, le personnage, c'est pas du tout ça. Hein, mais sur la première partie, c'est un peu étrange.
Oui, alors, mais c'est pour montrer son trouble, à mon avis.
Ouais, je sais pas. Alors moi, je suis comme vous. Je trouve que le fait de revoir trois fois la même chose, même si on est censé monter dans les arcanes du pouvoir, ça ne fonctionne pas si bien que ça. Et même à la limite, la troisième fois, c'est un peu pénible. Mais il y a quelques petites scènes, effectivement, vous en avez parlé, qui sauvent peut-être un peu le truc. Mais et puis bon, je ne sais pas. Je trouve que quand même la fin, est, le plan final n'est vraiment pas intéressant. Voilà. Sinon, ça se regarde effectivement beaucoup de suspense. Et surtout, ce qu'on comprend, c'est que eh bien, la dissuasion nucléaire, c'est plein de protocoles. Et si ça arrive vraiment, eh bien, en fait, il n'y a plus rien qui fonctionne.
Voilà.
C'est ça qu'il faut comprendre du film.
Et personne ne sait rien faire.
Eh bien, si, mais en fait, on n'a plus le temps de lire les protocoles. Et puis, ce qu'on avait imaginé, en fait, ça ne se passe pas du tout comme on l'avait prévu. Et qu'on ne sait plus qui doit faire quoi. Et comme, ils sont tous complètement démunis, en fait.
Voilà, d'où l'expression « a house of dynamite » qui expliquait.
Voilà, exactement. Donc, moi, je pense que c'est un film qu'on peut regarder, parce que c'est vrai que ça passe bien. Je pense que c'est quand même pas le meilleur de la réalisatrice.
Non, et même du triptyque, c'est pas le meilleur.
Ouais. Mais bon, c'est quand même une... On sent qu'elle a de la bouteille, que c'est la première femme oscarisée en tant que réalisatrice, ça se sent, quoi, ça tourne bien. Et les acteurs sont quand même très bons. Et je dois avouer que moi, j'ai beaucoup aimé le général, parce qu'au début, on ne le voit pas beaucoup, et puis on le voit de plus en plus, et il est quand même, assez rigolo, le grand général, là, qui à un moment se dit, mais on se fout de moi. Au début, il rigole, en fait, hein, quand on lui dit qu'il y a un missile qui part, il parle du match de baseball, tout ça, et il se dit, c'est la routine, hein, c'est comme d'habitude, c'est les Nord-Coréens qui ont dû s'amuser, faire un test. Et puis, je trouve que l'acteur fait vraiment bien, le mec qui petit à petit se met à comprendre et à se dire mais là en fait on n'est plus en train de faire un exercice à la gomme.
Oui.
On est dedans.
Oui, et il réagit complètement à l'inverse du secrétaire à la défense. C'est très intéressant.
Non, ouais. Il y a des choses intéressantes. Je suis d'accord avec vous, monsieur Kogan.
Alors très bien. Alors côté série, un petit bijou en 7 épisodes. Hein. Task. Même équipe que Mare of Easttown, hein, en tête le bien nommé Inglesby. L'ancien prêtre Tom, devenu agent du FBI en pleine tragédie familiale, va devoir, avec trois agents inexpérimentés, enquêter sur des braquages de maisons de dealers. Alors on est entre conflits de bandes de motards, flics ripoux, complots divers et variés, une affaire qui cache en fait une vraie critique sociale des États-Unis, hein, où des gens qui en fait sont des gens bien peuvent basculer dans le mauvais, du mauvais côté, où la nuance est de mise. Eh oui, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de caricature. Un propos qui est finement amené, qui est subtil, en fait, avec des acteurs qui sont absolument au top. Mark Ruffalo en tête, hein, voilà, énormissime. Mention spéciale pour Emilia Jones, hein, le personnage de Maeve, qui est vraiment qui est excellent. Ça touche parfois au sublime, même, cette série, avec une nature qui est omniprésente, et qui, elle, évidemment, renvoie de la sérénité face à la folie humaine. C'est percutant, c'est émouvant, c'est en 7 épisodes, ça se dévore, et c'est à ne pas rater.
Alors, voilà. Rappelez-nous le nom.
Ça s'appelle Task, puisque c'est l'équipe qui est formée exceptionnellement pour une enquête. Alors, que s'est-il passé le 10 novembre 1871 ?
10 novembre 1871.
Oh là 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 là.
Je ne sais pas.
C'était la veille du 11 novembre.
Alors, petit indice, ça se passe à Ujiji. Aujourd'hui, c'est en Tanzanie.
Ah, j'allais dire à ce moment-là, il reste moins de 4 ans à vivre à George Sand, mais rien à voir du coup.
C'est le début de la guerre des Boers ou...
Comment ?
Le début de la guerre des Boers ?
Ah non, non, non. Ouh là là, vous êtes à 25 ans près.
À 25 ans près, oh, bon, ça va, j'avais peur que ce soit beaucoup
un peu plus.
Ouais, peut-être sans doute plus. Ouais.
C'est alors, rien à voir avec la commune ?
Ah ben non, Ujiji en Tanzanie. C'est très connu comme événement. Hein.
Ah bon ? Bon, en Tanzanie. Mais c'était pas la Tanzanie à l'époque.
Bah non.
Eh oui. C'est bien
en plein
ça.
Milieu. À l'époque, pour le commun des mortels, c'est l'Afrique sauvage.
L'Afrique sauvage.
Entre guillemets. Et donc ?
Mais aucune idée, monsieur Kogan.
Eh bien, c'est le fameux Dr. Livingstone, I presume.
Oh, oh là là, très fort. Ah oui, alors là, effectivement.
Prononcé par Stanley, qui donc découvre en plein milieu de la jungle. Un de ses compatriotes, entre guillemets, pas tout à fait d'ailleurs, parce qu'il y en a un des deux qui est gallois. Mais voilà. Joyeux anniversaire à Mikhail Kalachnikov.
Oh non.
Oh.
Ici, 1919-2013.
Une
comme
émission
quoi,
de bon goût, décidément.
Qui donc aurait fêté son anniversaire le 10 novembre et qui porte évidemment le nom de sa fabrication célébrissime. Et voilà, et aussi à deux actrices, hein, en l'occurrence Hélène Pompeo et Zoé Deutsch, qui sont pas tout à fait de la même génération. Voilà, voilà. Un petit hommage à quelques personnes disparues. Voilà,
attendez, alors, Monsieur Kogan, Zoé Deutsch, c'est pas elle qui joue en ce moment là dans le film sur la nouvelle vague française ? C'est pas elle qu'ils ont pris pour faire ?
Absolument, absolument, Monsieur Edmond. Alors, parmi les personnalités disparues, des grandes personnalités, dont une creusoise. Et oui, Peter Watkins était un réalisateur américain, réfugié, si je puis dire, en Creuse, où il a passé ses dernières années. C'était un réalisateur fondamental du cinéma indépendant. J'en veux pour preuve, La bataille de Culloden, La commune, qui faisait quand même 6h15, hein, et le très 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 dérangeant Punishment Park. Pour avoir vu ces films-là, c'est quand même pas des films faciles. Mais c'est des films qui, à chaque fois, nous interrogent sur notre rapport à l'histoire et notre rapport au cinéma. Bon, l'immense acteur Cheick Icario est décédé, vous deviez le savoir. Lui, il vivait en Bretagne depuis quelque temps et il se battait malheureusement contre une terrible maladie. Et j'ai appris, d'ailleurs, en faisant des recherches, que Cheick Icario était musicien, ce que je ne savais pas. Donc voilà. Donc, si vous voulez lui rendre hommage, peut-être essayez d'écouter Cheick Icario à la guitare. D'autres personnalités du milieu du cinéma, je pense à Philippe Collin, je pense aussi à Bjørn Anders Andresen qui avait été très instrumentalisé pour son rôle dans Mort à Venise, je pense à Maria Riva ou encore à Samantha Eggar. Dans le milieu de la musique, Sam Rivers, Anthony Jackson, mais parmi d'autres noms, on ne peut pas ne pas citer le français Richard Bonneau. Je pense quand même à d'autres gens, et je pense entre autres à Dave Ball, qui était le clavier des Soft Cell, hein. Je pense aussi à quelqu'un que je connaissais, voilà, alors je ne vais pas pleurer, ça m'arrive de temps en temps, quelqu'un que je connaissais, évidemment l'immense Jean Blanchard, qui était un des fondateurs, un grand spécialiste de musique traditionnelle, et un des fondateurs de la Bamboche. Parmi les autres personnalités du milieu artistique, évidemment, il y a des gens de lettres. Voilà, alors István Ág, ou encore Richard Gott, qui était un grand écrivain britannique. Mais c'est difficile pour moi de ne pas revenir sur les musiciens, parce que il y avait quelqu'un dont je voulais clore ce bout de chronique avec lui. Tout le monde, bien sûr, a parlé de Ace Frehley, qui était le guitariste de Kiss. Mais pour moi, dans les monuments qui ont disparu ces dernières semaines, il y a évidemment l'immense Éric Marchand, qui avait quand même été pour la musique bretonne un monument et qui nous laisse plus de 33 albums. dont certains avec le groupe Gwerz, qui était un immense chanteur, un immense clarinettiste, qui avait mélangé la musique bretonne et la musique roumaine. Donc voilà, un immense artiste, Kenavo, Eric. Eh bien voilà, alors c'est tout pour moi, peut-être quelques dates si vous voulez.
Mais oui, allez-y, Monsieur Kogan, donnez-nous quelques dates.
Très rapidement, alors très rapidement, quelques dates. On peut aller voir un spectacle de danse, hein, Martine versus Hipmun. C'est à l'Espace Nauriac les 14 et 15 novembre. Pour ce qui est de la Creuse, je vais penser aussi à vous parler du Centre culturel Yves Furet, où il y a toujours une programmation géniale. Alors, il y a le groupe Astéréotypie qui passe, donc c'est le 14 novembre à 20h30. Et puis, voilà, alors la Creuse, c'est quand même formidable, hein, parce qu'il y avait Florence Mendez est programmée le 7 novembre. Alors, si certains m'écoutent avant 21h ce jour-là du vendredi 7, eh ben, écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire, mais si ça se trouve, c'est plein, j'en sais rien. L'Espace Fayol, alors là, on parle de Guéret, fera une petite chose qui est assez intéressante. Hein, c'est une programmation de court-métrage tchèque. Ça s'appelle le carnaval de la petite taupe. Alors, c'est un personnage que je connaissais. Voilà, et donc, c'est une diffusion des aventures de ce personnage qui est assez, assez rigolo. Ça se passe le 14 novembre aussi, et c'est à 18h30 à l'Espace Fayol. Parmi les autres événements, on pouvait citer aussi des choses qui se passent, toujours le 14 novembre aussi, il y a de la danse, figurez-vous, et pour une fois, c'est de la danse, ça se passe à Saint-Thierrier, au centre culturel de Saint-Thierrier. Voilà, écoutez, je sais que c'est éclat des mailles, le festival de jazz de Limoges, donc là, si je dois vous donner toutes les dates des événements qui se passent lors de ce festival, c'est un petit peu compliqué, mais quand même, pour ce qui est de Limoges en propre, s'il me reste une minute...
Mais oui, même deux, même trois, Monsieur Kogan.
Ah, très bien. Donc, avant de parler d'éclat des mailles, on peut quand même dire qu'il y a toujours des concerts au Petit Jourdan, parce que l'autre jour, quelqu'un me parlait de ce lieu emblématique de Limoges. Or, le 10 novembre, il y a bien un apéro-concert à 19h avec un groupe qui s'appelle Nathan Roche. Un groupe ou un chanteur, voilà, c'est tout petit comme endroit, mais c'est absolument inratable. C'est à 19h, c'est au Petit J, en bas de la cathédrale. Le lendemain, c'est le 34e festival Disque et BD à Limoges, donc vous pourrez aller acheter plein de choses. C'est toujours au même endroit, hein, à la sortie de la ville, et donc beaucoup de belles affaires à faire. Le soir même, le mardi, donc toujours 11 novembre, il y a la tournée du cœur, hein, au profit des Restos du Cœur. Alors là, ça va être, on va bien rigoler, je pense, à cette soirée-là. Il y aura Celt Kilt, un groupe que j'aime beaucoup. Les Trois Fromages et Mirabelle. Les Trois Fromages, c'est assez comique. Le lendemain, il y a une scène ouverte, donc à Couzex. J'ai parlé de cette salle l'année dernière, hein, qui se trouve allée de la Voie romaine. Dans les autres dates, je peux quand même vous conseiller aussi Arthur Satan et Cigogne. Ça se passe le 14 novembre et c'est à John Lennon. Voilà, donc ça, c'est une grosse date intéressante. Agathe, elle sera en showcase dans le cadre du festival Éclat des mailles. Et côté littérature, je peux aussi vous conseiller Lucas Destrem, qui dédicace son dernier bouquin samedi à la très bonne librairie qui se trouve Place de la Motte. Vous voyez de quoi je veux parler. Ludwig von 88, et je sais que ça vous parle à vous deux, sera en concert à Lennon, avec Salut les Quepons, le samedi 15 novembre. Donc voilà, donc je pense que là, on va bien s'amuser aussi. Le même soir, il y a un cabaret d'impro, 5 rue Louis Lagrange, qui est un endroit que je connais bien pour y avoir joué moi-même. Voilà, j'avais sans doute d'autres dates, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Et donc, voilà, tapez Éclat des mailles, parce que c'est ce festival qui est bien sûr formidable, qui commence avec plein de... c'est du jazz, plein de concerts de jazz et d'événements liés à cela en perspective. J'avais noté quelque chose d'autre, mais je ne sais pas si je vais le retrouver.
Mais cherchez, Monsieur Kogan, Madame Henriette a envie de dire quelque
et
chose.
Et en attendant, dans plus longtemps, il va y avoir donc à Guéret donc le Chant des Lions, et ce sera le 22 novembre.
Le 25,
le
Madame
25,
Henriette.
Pardon, autant pour moi. Le 25 novembre, et on l'annonce un petit peu en avance parce que a priori, il ne doit pas rester beaucoup de place. Donc, si vous avez envie de le voir, c'est maintenant.
Oui, d'ailleurs, je vais en dire deux mots pendant que M. Kogan cherche sa feuille. Donc, Le Chant des Lions, qui est une pièce de Julien Delpech et d'Alexandre Foulon. Et une pièce qui a bien marché au Festival d'Avignon cette année. Et qui met en scène eh ben, deux écrivains célèbres, puisqu'il s'agit, et qui sont en plus de la même famille, hein, Joseph Kessel et Maurice Druon.
Ah, alors, bah oui.
Alors, évidemment, Kessel est beaucoup plus âgé. Et donc, il est plus âgé et il prend sous son aile le petit Maurice qui s'initie à la poésie. Et bon, donc voilà, ça commence avant-guerre, avant la Seconde Guerre mondiale. On voit un Kessel aventurier, comme on le connaît, journaliste, et puis courant à droite, à gauche, aimant bien faire la fête. Et la guerre leur tombe dessus. Voilà, voilà. Kessel est un peu mis au banc, d'ailleurs, à ce moment-là. Et donc, avec Druon, à un moment, en fait, ils vont être invités à écrire une chanson pour tous les artisans de l'ombre, tous les résistants et tout ça. Et évidemment, c'est une chanson qui finalement, au moment de sa sortie, donc pendant la guerre, va passer un peu inaperçue, mais qui depuis a fait beaucoup de chemin et que on entend régulièrement dans les manifestations, notamment puisqu'il s'agit, Madame Henriette,
du Chant des Partisans.
Voilà, donc c'est une pièce qui revient sur la genèse de cette chanson. C'est vraiment très réussi et puis très émouvant à la fin, puisque bon, y a cette chanson dont le texte est quand même fort bien écrit donc par le duo Kessel-Druon.
La musique est écrite par une femme.
Oui, la musique existait avant, en fait. Ils ont repris une chanson qui existait. Alors, il y a toute une histoire. Et d'ailleurs, dans la pièce, malheureusement, cette femme, celle qui est la première à avoir écrit cet air, n'apparaît pas. Apparaît celle qui va la chanter pour Druon et Kessel, voilà, à la demande de De Gaulle. Mais effectivement, l'histoire de cette chanson est un peu plus complexe qu'elle n'apparaît dans la pièce. Mais par contre, voilà, la pièce, si vous l'achetez par exemple en texte, revient sur tous les éléments vrais, faux, et plus particulièrement donc sur toute l'histoire de cette chanson, qui est vraiment très réussie.
Pour parler des femmes dans l'histoire, une conférence sur l'épuration des femmes collaboratrices, donc c'est pas inintéressant comme sujet, c'est pas très fun, mais voilà, ça se passe à la Visitation, c'est le 13 novembre à 19h. Donc, je pense que c'est une conférence vraiment passionnante. Le festival Jazz et Cadéba, j'y reviens quand même une minute, c'est donc le 20e festival, hein, c'est un événement maintenant ici à Limoges, et le concert d'ouverture sera donc le vendredi 14 à 20h30, et ce sera une star, une vraie star hein, pour le coup, Justina Lee Brown, qui sera donc au Grand Théâtre, et la lauréate donc du Woman in Entertainment Award sera et donc finaliste dans d'autres festivals sera là et ça va dépoter, c'est évident. Dans la programmation, il y a des groupes plus ou moins connus parce que c'est évidemment le jazz est une famille particulière. Mais enfin, il y a des choses qui sont assez grand public, hein. Je pense à Ben Lopesaul par exemple, et il y a des choses un peu plus confidentielles, mais qui à mon avis sont à découvrir. Puisque la semaine d'après, j'en reparlerai peut-être, Christy Dashiell viendra elle aussi faire un concert. Donc, c'est quand même des grandes voix et de la musique à ne pas rater. Voilà, c'est tout pour moi.
Merci, Monsieur Kogan. Madame Henriette, c'est bon pour vous? Non, il n'y a pas de série coréenne à ne pas manquer en ce moment ou... Non, pas pour l'instant. Elle me regarde avec des yeux bizarres. Non, j'ai arrêté la Corée. Je suis passé aux séries allemandes.
Non, pas du tout, mais j'ai regardé quelques petites séries très mignonnes espagnoles. Voilà.
Donc, vous en direz peut-être un mot à un moment.
Alors, après, je suis pas du tout objective en la matière, puisque qu'il s'agisse du coréen ou de l'espagnol, ce sont deux langues qui me disposent très favorablement pour le visionnage d'une série. Hein, voilà. Alors, okay. il y a des langues qui vous aident à accepter beaucoup de choses.
Oh, c'est mignon. Écoutez, ben on va finir. Alors, je vais vous parler rapidement d'un petit article que j'ai trouvé sur The Conversation, l'expertise universitaire, l'existence journalistique. Un article de Sébastien Moreau, maître de conférence en biologie à l'Université de Tours. Et il revient sur un sujet dont nous avons tous parlé un jour ou l'autre. C'est l'autotomie de l'aiguillon de l'abeille. Qu'est-ce qu'il y a, Madame Mariette ? Me regardez pas comme ça.
C'est-à-dire la pauvre abeille qui s'arrache les tripes quand elle vous pique.
Exactement. Et figurez-vous que l'article m'a intéressé et m'a tout de suite fait « Oh, comment ça ?» Parce que moi, j'avais l'habitude de dire « Eh ben oui, l'abeille, elle meurt après avoir piqué. » Eh bien non, Madame Henriette, c'est faux, puisqu'en fait, toutes les abeilles ne pratiquent pas l'autotomie.
Ah, certaines vous piquent et s'en tirent sans dommage.
Exactement.
Elles ont bien raison.
Donc effectivement, normalement, l'autotomie, c'est l'abeille vous pique, le dard reste dans votre peau. Et évidemment, comme elle s'est arrachée la moitié de l'abdomen, eh bien, elle meurt. Alors d'abord, Sébastien Moreau nous explique que des fois, elle ne meurt pas tout de suite. Et on a observé certaines abeilles qui avaient tenu plus de 18 heures comme ça avec la moitié du bide arraché. Donc elles arrivent encore à faire leur boulot après. Hein. Donc amis travailleurs français, prenez-en de la graine.
Oui,
c'est pas parce que vous avez le bide en moins qu'il faudrait pas travailler.
Et oui, ça s'arrête dès que ça a 42 fièvres. Ah, c'est bien fragile tout ça.
Alors, ce qui est vrai, et peut-être c'est pour ça qu'on a tendance en France à dire que l'abeille, quand elle vous pique, elle meurt, c'est que cette autotomie existe effectivement chez l'Apis mellifera, qui est l'abeille à miel domestique qu'on trouve communément chez nous. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a eu tendance, voilà. Mais sur près de 20 000 espèces d'abeilles répertoriées, eh bien en Europe, c'est l'une des seules à le faire, voyez. Donc ça en fait 19 000 autres qui ne le font pas. Donc dire que l'abeille meurt quand elle vous pique, ben, ça dépend quel type d'abeille.
On a envie de dire à Apis mellifera, très mauvais choix.
Ouais, très mauvais choix. D'autre part, figurez-vous que ça a été observé chez certaines guêpes. Certaines guêpes vous piquent et vous laissent le dard et finissent par... Vous voyez ?
On a moins de compassion, là.
Monsieur Kogan, comment...
Monsieur Kogan, c'est tout pareil, en fait.
Non, le miel est essentiel à ma vie, puisque le miel est une composante capitale du chouchen. Donc, voilà.
Ah oui, d'accord, la guêpe, elle sert à rien, elle peut crever, quoi. Bravo, mais belle mentalité, hein.
Et figurez-vous que la lototomie est aussi également pratiquée par des fourmis. Voilà.
Mais pourquoi ? Donc les fourmis
vous
piquent.
Il y a certaines qui vous piquent. Voilà.
Oui.
Mais elles n'ont pas de dard au.
Ah bah je sais pas comment ça marche, mais en tout cas ça a été les scientifiques s'en sont aperçus. Donc évidemment on peut pas dire que c'est voilà c'est l'apanage des abeilles. Eh ben non, absolument pas. Vous voyez comme quoi. Alors. Un dernier mot, vous pouvez aller lire donc cet article sur The Conversation. Non, toutes les abeilles ne meurent pas après avoir piqué. Hein, donc c'est le titre de l'article. Et donc, on nous explique à quoi ça sert de perdre la moitié de son abdomen.
Parce que sans doute, il y a une utilité. À première vue, ça ne sert pas à grand-chose, mais bon.
Eh bien si, Madame Henriette. Parce que figurez-vous que donc, elle vous laisse le dard dans la peau, plus les glandes qui contiennent le venin. D'accord ?
Oui.
Donc l'idée, c'est que quand vous essayez d'enlever le dard, vous rappuyez sur les glandes et vous renvoyez une petite injection de venin.
Oui, mais enfin, elle n'est pas là pour en profiter.
Et
elle ne peut pas se mettre sur une branche et rigoler en vous regardant vous débattre.
Et quand vous faites cela, Madame Henriette, en plus, ça déclenche l'éjection d'un autre, je ne sais plus comment il appelle ça, en fait, un autre truc qui part dans l'air et qui appelle les autres abeilles à venir vous piquer. Vous voyez ?
Non.
Donc, elle ne fait pas ça en vain. Et donc, évidemment, si vous sortez mal le dard et que vous appuyez trop fort, vous risquez de vous retrouver avec un paquet d'abeilles sur le dos qui vont s'occuper de votre cas. Et là, ça peut faire mal.
Par contre, dans l'évolution humaine, moi, je vois un cas où la lototomie serait tout à fait intéressante. C'est pour les crétins qui vous font des piqûres de GHB et autres dans les discothèques et autres lieux de nuit.
D'accord.
Hein ?
Bah écoutez, malheureusement, la nature n'est pas toujours bien faite. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Bon, mais ce sera une émission un tout petit peu plus courte que d'habitude, mais ce n'est pas grave. On va quand même se dire au revoir. partez dans la joie et la bonne humeur.
Yes, you've done a good job.
Merci, Monsieur Kogan. Et augmentez vos...
Je suis à deux doigts de présenter mes excuses aux auditeurs.
Mais présenter vos excuses aux auditeurs, c'est très à la mode.
Oui, mais non, parce que...
Je m'excuse de ne pas m'avoir excusé en m'excusant.
Ah ouais, quand même.
Merci, Madame Ariette. On se dit à la semaine prochaine, on l'espère, avec toute l'équipe. Et puis, portez-vous bien.
Exactement. L'important, c'est la santé, par les temps qui courent.
Vous dites ça pour M. Sarkozy ou...
Donc, j'ai bouclé la boucle. Ça y est, je présente mes plus plates excuses aux auditeurs. Je n'ai pas suggéré.
Ah, qui c'est qui a craché dans mon yop ? Bon, allez-y. Allez, à la semaine prochaine.
Comme prima, tu me donnes tant de joie que personne ne m'en donne comme toi. C'est ta bouche qui m'apporte ma joie de vivre. Et ma chance, c'est de vivre rien que pour toi. Que m'importe si tu m'aimes moins que moi. Moi je t'aime comme on aime qu'une fois. Et je reste prisonnière, prisonnière de tes bras. Comme prima, tu me donnes tant de joie. La notte, come allora, magica scende. La luna splende e tu sei qui. Mi sento un po' confusa, non so capire. Solo così, come prima, più di prima t'amerò, per la vita, la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani fra le mani stringere ancora. Come prima tu me donnes tant d'amour que j'espère te le rendre quand t'es heureuse dans tes